Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot.
Simon Dutin.
Entouré ce soir, Delton Bokolo et Walid Acherchour qui vous accompagnent. L'After est là tous les soirs de l'année, a fortiori en été. On se projette déjà sur la saison de Ligue 1 et de Ligue des Champions qui... Ça s'approche quand même, ça y est.
Rapidement, d'ici moins d'un mois.
21 août, la reprise de la Ligue 1, ce sera OM Strasbourg. On parlera de l'OM dans un instant avec toi, Elton. On continue de s'intéresser au cas du Paris Saint-Germain. C'était l'info du jour, révélée par Fabrice Hawkins. Paris qui s'invite dans le dossier Rodri. Vous retrouvez les dernières infos sur le site rmcsport.fr. Mais au-delà de ça, c'est toujours une éternelle question. Messieurs, est-ce qu'il faut changer une équipe qui gagne? Est-ce qu'on a besoin de se renouveler pour continuer à dominer? Paris a donné déjà cet été quelques signes d'une volonté de changement, les départs de Ramos, Kanginli, mais bon, c'est des départs qui sont quand même plutôt liés à la volonté de ces joueurs d'avoir un rôle plus élargi et plus de temps de jeu ailleurs. Alors, cette question, est-ce que Paris doit, selon vous, obligatoirement se renouveler, se réinventer, ou alors est-ce qu'il doit attendre, si je peux me permettre, la date de péremption de son modèle et de son effectif qui, on le rappelle, l'a emmené déjà deux fois au sommet de l'Europe.
C'est la principale difficulté quand t'es dans l'excellence sportive, quand t'es la meilleure équipe, quand t'es dans la référence, à savoir se réinventer tout en étant la meilleure équipe. Il y a eu un cas précis sur les 15 dernières années, c'est le Real Madrid, quand ils ont fait le triplé. On a vu à l'époque que cette équipe, elle avait très peu bougé et que les principaux recrutements, les changements, étaient davantage à la marge. Et là, du côté du PSG, bah, t'as un objectif, c'est comment te renforcer, comment être une équipe qui va être encore la meilleure. Et ça, forcément, c'est quelque chose de très compliqué parce que, attention, quand tu arrives dans une certaine situation comme tu la connais actuellement du côté du PSG, tu peux rentrer dans un certain confort. Et moi, j'ai une inquiétude par rapport à l'équipe parisienne, c'est de pas pouvoir anticiper le moment où ça va commencer à régresser et ne pas être en alerte sur le mercato. Parce que là, je vois aujourd'hui sur le marché des transferts estival, t'es quand même sur une approche qui est assez conservatrice, voire timide.
Oui, ça fait un an ou deux.
Oui, mais moi, il y a deux réalités qui existent. L'année dernière, tu fais le back-to-back, mais ton mercato estival a pas été satisfaisant. Je veux dire, Chevalier, Zabardi n'ont pas impacté le 11 de départ. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse du côté du PSG, c'est à quel point tu peux impacter ce fameux 11 de départ et ne pas avoir de manière inexorable un écart entre les titulaires et les remplaçants. Et c'est là-dessus où le PSG doit être vigilant. Et là, sur les signaux envoyés sur ce mercato, je suis en alerte.
Ben alors là, on parle de remplacement. Je te donne la balle dans un instant. On parle de remplacer les joueurs justement qui partent. Moi, je vais compléter un petit peu l'intitulé de ce débat. Est-ce qu'il faut, par exemple, remplacer Gonçalo Ramos par un vrai neuf, un gars capable de fixer les défenses, qui peut te servir en fin de match lorsque, évidemment, l'adversaire tente de conserver le résultat? Ou est-ce que tu pars sur, on en parle, un Ferran Torres, un De Ketelaere, un profil tout à fait différent? Est-ce que t'as quand même pas intérêt à conserver un vrai neuf, ou est-ce que tu changes ton logiciel? Est-ce qu'on continue avec Safonov? Est-ce qu'on continue sans latéral droit de métier derrière Hakimi parce qu'on a Zaïre Emery, on a Jean Neves qui peuvent faire le taf? C'est en ça que je vous demande si le PSG doit se réinventer ou si tu dois juste remplacer poste pour poste.
Moi, c'est pas que je demande pourquoi Elton est en alerte, parce que globalement, moi, je trouve que le début de mercato est très bien du côté du Paris Saint-Germain.
Sur le volet vente.
Non, même sur le volet vente et le volet arrivé. Enfin, en tout cas, les rumeurs, ce qui est annoncé, enfin, ce qu'on imagine, insistant du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je vois Lucas Digne pour remplacer Nuno Mendes. Moi, je trouve ça très cohérent par rapport au marché, par rapport à ce qu'ils ont dépensé. Ils font du français avec un joueur qui a connu la maison, qui a connu la Ligue 1, qui va pas faire de bruit et qui sera important en Ligue 1. Moi, je trouve que les ventes de Likanguin et de Ramos en fin de cycle, c'est très très bien vendu. Et derrière, on parle d'Akliouche. Moi, sur le côté droit, pour remplacer Likanguin avec la magie d'un Luis Enrique, moi je suis très confiant, même s'il y en a qui diront peut-être c'est cher, etc. Moi, je pense qu'encore une fois, la stratégie de Luis Campos d'attendre que Akliouche redescende en termes de valeur marchande, alors que l'année dernière, il était à un pic de 170 millions d'euros. Là, je pense que ça va être un peu moins cher. Je trouve que c'est très bien géré de la part de Luis Enrique et de Luis Campos. L'histoire du numéro 9, de toute façon, la réalité, c'est qu'à la base, ils veulent Eli Kroupi Junior, sauf que ils vont jamais surpayer Eli Kroupi parce que Bornemousse veut sans bâton et que, comme pour Diomandé, ils iront pas à ces hauteurs-là. Il faut féliciter le PSG de ne pas aller sur
la vache allée, quoi.
Sur ces montants de pigeons. À un moment donné, ils vont faire exactement la même chose où Eli Kroupi va attendre le PSG ou un autre gros club.
Il y a un autre club qui peut aussi piquer, parce que tu l'avais avec Diomandé.
Bien évidemment, mais sauf que ces joueurs-là, comme Eli Kroupi ou comme Akliouche, eh ben, ils savent très très bien qu'ils n'ont pas un marché exorbitant par rapport à leur style de jeu, par rapport aussi à ce qu'un prenne le Paris Saint-Germain et ce qu'ils ont envie de faire avec le PSG. Donc ils vont sûrement continuer une année supplémentaire et ils l'auront sur un montant peut-être plus bas si le joueur est moins bon, mais parce que ils savent très très bien la valeur du joueur intrinsèque, et ça, pour eux, bah, ils vont pas dévier comme ce qu'ils avaient fait avec Kvaratskhelia, où ils avaient demandé 120 l'été, il avait fait 6 premiers mois de merde, de 6 mois après écoutez 70, ils l'ont récupéré. Donc c'est ça la stratégie aujourd'hui du Paris Saint-Germain, et moi je trouve que c'est très très bien fait. Après se renouveler, l'année dernière ils l'ont fait par parcimonie, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Moi je trouve que par rapport à l'année, moi, l'histoire de Chevalier, j'avais dit Chevalier Donnarumma, attention, j'étais pas fan, moi, de prendre Chevalier maintenant. Zabarni, je ne connaissais pas du tout. Là, aujourd'hui, pour l'instant, je trouve ça cohérent. Vente et possible arrivée. Je trouve que le travail est plutôt bien fait. Maintenant, on fera une analyse et un bilan global à la fin du mercato. Mais j'ai quand même le sentiment que le PSG va se renforcer sur ce mercato.
Moi, je reste en alerte parce que tout en ayant mis le contexte, notamment une équipe back-to-back et qui forcément, c'est très difficile de se renouveler. Je mets en avant, j'aime pas cette petite musique qui commence à arriver. En gros, voilà, il y a les joueurs qui pourraient arriver. Ce serait davantage en tant que remplaçant. Luis Enrique, depuis 2023, il nous a éduqués en disant qu'il considérait des joueurs comme titulaires qui avaient des potentiels postulants de manière à avoir une émulation. Et qu'en gros, il faudrait pas qu'on arrive sur un mercato où il y ait une rupture entre, d'un côté, les titulaires et de l'autre côté, les remplaçants. Et moi, pourquoi je suis en alerte? C'est parce que il y a un environnement sur le marché des transferts qui est très, très agressif. Parce que à partir du moment où le PSG est la référence, il y a une course à l'armement. Et moi, je me dis que le PSG doit rester attentif à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es positionné sur des dossiers comme Diomandé, comme sur Eli Kroupi, ne va pas penser que parce que t'es double vainqueur de Ligue des Champions, automatiquement les joueurs ils vont venir à toi. Il y a encore de la bagarre à faire parce que aujourd'hui,
oui, il y a de la bagarre à faire, mais aller mettre 100 bâtons sur Boadi que tu voulais à 60 parce qu'Olivier Létang préfère aller vendre en Premier League, mais aujourd'hui t'es sur un marché qui est ultra concurrentiel. Tu vas pas mettre 120 bâtons sur Diomandé, tu prolonges Barcola et tu lui expliques que tu vas faire tes 30 matchs et Barcola à un moment donné il va se rendre compte que le marché aujourd'hui, et ben il y a pas 10 000 places pour lui, tout simplement. Eli Kroupi, tu prendras Ferran Torres ou tu prendras un autre joueur, et puis Eli Kroupi attendra que Dembélé parte en Arabie Saoudite ou ailleurs dans un an ou deux, et tu prendras Eli Kroupi.
Ouais, moi, t'as la garantie de le prendre aujourd'hui.
Ou tu prendras autre chose. Moi, Eli Kroupi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il a même Tottenham. Eli Kroupi, il va pas aller à Tottenham. Pas aller à Tottenham parce qu'il attend le très bon projet Arsenal, Bayern, Paris Saint-Germain. Donc, ce sont des joueurs qui se disent bon, je vais faire l'Europe avec Bournemouth une saison en plus en Première Ligue. C'est pas très très grave. Lui, il veut aller au PSG. Sauf que le PSG, on va pas les critiquer. On les a critiqués d'être des pigeons pendant 4-5 ans. Voilà, là, aujourd'hui, ils ont en magasin. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, en tout cas, ils ont la meilleure mayonnaise du monde, la meilleure mayonnaise battue par Luis Enrique. Il y a un moment, ils vont pas faire n'importe quoi.
Attention, il y a un juste milieu entre être le pigeon.
Donc il faut faire quoi alors? Dis-moi quoi. Il faut mettre 120 bâtons sur Diomandé.
Moi, ce que je veux te dire par là, si t'es
vraiment, on en parlera tout à l'heure de Diomandé
si t'es vraiment convaincu qu'à date les joueurs ils peuvent t'apporter une plus-value sur le court moyen terme, tu dois te positionner parce que aujourd'hui on a un marché des transferts qui est de plus en plus.
Tu mets 100 bâtons sur Eli Kroupi qui doit être un joueur de rotation aujourd'hui parce que ton meilleur joueur c'est Ousmane Dembélé. Comment tu vas faire pour le gérer? C'est pas du tout la même chose. Et puis lui, encore une fois, on l'a vu avec Colomoigny. Comment ce joueur-là va arriver avec un transfert record dans ton club? Tout ça, c'est aussi une gestion millimétrée de la part du club. Et moi, je trouve ça intéressant de le faire. Voilà, et
on peut se féliciter que Paris n'ait plus envie d'être la vache allée de l'Europe.
Moi, j'aime bien,
et de se faire enfler sur les
transferts.
De faire gonfler
Simon, on peut valoriser ça, sauf qu'on a un environnement sur le marché des transferts qui est de plus en plus agressif. Ah bah. C'est-à-dire que les tarifs sont de plus en plus élevés. C'est... Donc, en fait, tu restes en marge de ce combat en te disant que nous, on a notre méthode qui a marché. Mais attention.
C'est pas très grave s'ils gagnent pas la Ligue des Champions l'an prochain.
Non, je te dis pas ça, mais attention. On est sur un marché où il y a beaucoup plus d'argent que de joueurs top mondial. Il faudrait pas que justement tu sois tellement inflexible que tu passes à côté de certains joueurs.
Bon, enfin, oui.
On va demander son avis à Malcolm, supporter parisien qui a fait le 32-16. Salut,
Malcolm.
Salut l'équipe, comment ça va?
Nous, ça va toujours bien quand on parle de foot dans le studio RMC. Bienvenue dans l'After. Ta position là sur le débat qui enflamme nos...
Oui, t'as pris beaucoup de mes arguments. Parce que pour le coup, je suis pas d'accord avec Elton. Enfin, en soi, c'est pas parce que un joueur on te donne un prix, il faut payer tout de suite. Par exemple, si on reprend le cas de l'année dernière, Massotu Ono. On était dessus, au final, le Real s'est dit, bon, on va le prendre, vu que le Real n'a pas été non plus une planification sportive excellente. On a appris que c'était 50 millions, puis à la fin, 90 millions avec toutes les histoires d'agents. Et ça marche pas forcément. Enfin, en soi, arriver, vouloir un joueur et le faire payer, d'une, t'es pas dit que le joueur marche, surtout pour le genre de rotation qu'on demande. Et de deux, aussi, comme l'a dit Walid, il a très raison, c'est, est-ce que le joueur à côté, en coûtant un certain prix, va bien gérer son transfert? Je crois qu'une fois, j'avais vu un live de Walid, un top 10,
très le
top
bon 10 des joueurs les plus chers.
Oui, chez Wawa, toujours.
Le top
10 des meilleurs joueurs, c'est minoritaire. Au final, les top 10 des joueurs qui ont été le plus chers, c'est le nombre de joueurs qui ont réussi est très minoritaire.
Donc, derrière, t'as une chape de plomb, t'as une cible dans le dos aujourd'hui quand tu coûtes 100 bâtons.
Donc, surtout si c'est pour prendre un joueur très cher. Donc, on a Elton là qui est en mode alerteur. Et si tu veux avoir Elton en mode critiqueur, ça sert à rien.
J'ai pas compris, on t'a mal entendu.
En gros, il dit que t'es là pour alerter, mais si c'est pour critiquer derrière les choix, sur des joueurs qui vont pas faire l'affaire. Parce qu'attention, mais Diomandé, on n'est pas loin du scam aujourd'hui. Non, ouais. Les 120 bâtons, parce que ce qui se passe autour du transfert de Diomandé, il faut appeler un chat un chat. C'est que les mecs, tout le monde veut se gaver.
Tu alors gardes tes cartouches, on en parle.
J'aime beaucoup le joueur, mais il arrive avec une annonce au PSG.
Je vais te donner un exemple très concret. L'été dernier, tu fais Lucas Chevalier et tu vires Donnarumma. Dans un objectif d'excellence sportive, moi, à aucun moment, tu m'entendras critiquer le fait que t'as viré Donnarumma pour Chevalier. Quand bien même ça n'a pas marché, ça n'invalide pas le fait que le PSG s'est positionné pour faire progresser son équipe. Moi, j'ai aucun problème si le PSG prend des positions pour faire progresser son équipe. Après, oui, t'as la vérité du terrain.
Oui, mais à un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite dans le
même
transfert.
Même Zabarni. Non, mais je vais pas critiquer le PSG parce qu'il se positionne.
Moi, ça me dérange de mettre 70 millions d'euros sur Zabarni si ça fonctionne pas. Ça me dérange.
Et de toute façon, je te redonne la balle, Malcolm, dans un instant. C'est vrai qu'on rend pas service à des joueurs qui découvrent un univers généralement plus grand lorsqu'ils arrivent à Paris que ce qu'ils ont connu. On leur rend pas service avec des prix de transfert exorbitants. Lorsque tu arrives, Walid, image ça avec la cible sur le dos, fort de cette énorme indemnité. Mais en effet, quand t'es Paris Saint-Germain, souvent, le fait de t'intéresser à un joueur, ça fait, tu payes une fois et demie ou deux fois le.
Parce que Simon, aujourd'hui, c'est la réalité du PSG. On l'explique depuis l'été dernier. À partir du moment où t'es double champion d'Europe, les prix ont augmenté.
C'est pour ça que la sagesse du Paris Saint-Germain, l'été dernier,
exactement. Je suis d'accord avec toi, Simon.
Non, mais ce que je veux dire par là, l'été dernier, ce que fait Bournemouth par rapport à Zabarni, c'est qu'ils savent que le PSG est champion d'Europe, donc ça augmente. Même chose pour Chevalier. Et là, la donne, elle a encore augmenté parce que PSG est double champion d'Europe. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les coups à la Gvara n'ont pas vocation à se répéter.
Moi, je suis étonné quand même de ton discours, Elton, parce que je fais beaucoup d'émissions avec toi. Mais normalement, toi, tu es quelqu'un.
J'arrive à t'étonner.
Non, mais tu m'étonnes parce que normalement, tu es quelqu'un qui prône la stabilité, qui prennent encore une fois les équipes qui marchent et qui se connaissent et qui fonctionnent. Mmh. Aujourd'hui, le Real Madrid a besoin de sauter sur la moindre occasion. Parce que le Real Madrid doit faire un Big Bang, doit refaire une mayonnaise qui ne marche pas en essayant d'aller chercher un milieu de terrain, en essayant d'aller chercher un ailier droit, en essayant d'aller de refaire une défense. Le PSG est dans la... Et dans la retouche, et dans la retouche. Aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine, ils vont se vautrer totalement et qu'il faudra repartir sur quelque chose. Mais aujourd'hui, pour moi, t'es sur du remplacement. T'es sur remplacer Lee Kang-in, remplacer Ramos, essayer de voir au milieu de terrain si tu peux avoir un ajout qualitatif, prendre un latéral gauche, un latéral droit, parce que t'as les meilleurs du monde. Mais s'ils se pètent, comment tu fais? Aujourd'hui, à gauche, si Barcola ne part pas, moi, je suis désolé. Tu dois faire un backup à Dembélé avec un choix intelligent. Mais si Barcola
ne part pas, t'as Barcola, Kvaratskhelia, Doué, Akliouch à droite, Dembélé plus un, comme je viens de le citer. Bon, t'as pas besoin de grandes manœuvres. T'as pas besoin d'être effrayé par Yann Diomandé, qui a fait six bons mois en Allemagne. Alors surtout quand on voit, et moi j'aime beaucoup le joueur, mais quand on voit le nombre de carottes que la Bundesliga nous a donné sur les dernières années. Donc voilà, donc ça, pour moi, le PSG doit être sûr. Il doit être sûr là-dessus. Ils ne doivent pas être fébriles comme certains clubs qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions et qui ont besoin d'y aller là. Il faut, où est le prochain Pokémon? Où est le prochain Pokémon rare? Faut y aller, etc. Là, le PSG n'est pas forcément dans cette posture.
Donc, pour répondre à la question initiale, pour toi, le PSG n'est pas dans l'obligation de se renouveler.
Doit être intelligent.
Mais c'est de la retouche.
Sauf que l'histoire.
Précise.
Sauf que l'histoire.
Rapidement, Elton, et le mot de la fin.
Sauf que l'histoire de la montée en puissance du PSG, le PSG qui devient la référence européenne, c'est à partir du moment où ils étaient agressifs malgré des joueurs qui étaient déjà présents. Je veux dire, Kvara arrive dans un secteur offensif où t'as déjà Barcola, t'as déjà Dembélé, t'as déjà Désiré Doué.
Mais il y avait un besoin à gauche.
Neves arrive dans un secteur où t'avais du Zaïre Emery, où t'avais du Vitinha.
Mais parce que tu sortais d'un échec oui. Où tu devais ajuster avec Pacho, João Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola. Tu fais un mercato là à ce moment-là, parce que Barcola c'était l'année d'avant. Ouais. Tu fais un mercato Doué, João Neves, Pacho, João Neves pour déjà changer de dimension avec quatre retouches significatives.
Mais attention, tu sortais d'une demi-finale de Ligue des Champions.
Et malgré bien.
Ça, t'as toujours été dans cette ambition de progresser, de faire progresser.
Mais là, tu t'imagines si tu fais Rodri, si tu fais Akliou, si tu fais Lucadigne, si tu fais un numéro 9 d'appoint, Ferran Torres ou ce que tu veux, derrière Ousmane Dembélé, je suis désolé. T'as besoin de quoi en fait?
Moi, mon principal objectif quand je parle du PSG 2026-2027, c'est que l'écart entre les titulaires et les remplaçants ne soit pas aussi conséquent que ce qu'on a pu voir cette année.
Ouais, bon. ça leur a pas empêché de gagner,
c'est pour ça que je te dis, il y a deux réalités qui peuvent exister. T'as très bien
pour moi, Akliouch est meilleur que Lee Kang-in dans mon esprit, et peut-être que le numéro 9 qu'ils vont prendre peut-être chatouiller Dembélé, on sait pas, on va voir. Et Rodri encore plus, si c'est Rodri, c'est les problèmes qu'on a évoqué il y a 5 minutes, c'est qu'il y a des problèmes de riches.
Oui, a priori c'est
et comme ça peut être aussi des problèmes ça dans l'autre sens.
Je remercie Malcolm d'avoir fait le 32-16 et d'être venu partager son avis avec celui d'Elton et Walid, qui ne bouge pas durant la pub. On va s'interrompre dans un instant. On va traverser la France et la Ligue 1. On va parler de l'OM avec toi, Elton. Tu as un avis sur le mercato à moyen limité de l'OM. Pas forcément une mauvaise nouvelle. Vous ne bougez pas. L'after revient dans quelques instants.